Il faut vous enivrer sans trêve. Et de quoi? De vin? De poésie? À votre guise.
J'aime le vin par excellence, parce que le vin est un aliment très nourrissant.
Bienvenue sur Ni Bu Ni Connu, une émission Divergence FM. Je pense que ça va parler de vin.
Et surtout du très très bon vin.
Il ne s'agira évidemment pas ici d'inciter à, mais plutôt d'aborder le vin comme une culture, un univers, un monde.
L'objectif, c'est de parler du monde viticole, qu'on rende hommage au vignoble du Languedoc, à mettre en avant les difficultés du monde agricole.
Et on n'a pas vu encore un petit coup de Bourgogne.
On va revenir à ce principe de naturalité du vin.
Il nous faut un taboulé en bois pour lui donner un petit goût boisé au vin.
C'est un plaisir très intellectuel que parce que genre, t'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin.
J'aime beaucoup ça.
Bienvenue dans Ni Bu Ni Connu, l'émission 100% vin, mais pas que, sur Divergence FM. Cette semaine, on laisse encore un peu la vigne tranquille pour partir à la rencontre d'un autre jus fermenté, le cidre artisanal. Et oui, on fait du cidre dans la métropole de Montpellier. Des pommes bio cultivées du côté des terrasses de l'Arzac, avec des variétés venues de Normandie et d'Aveyron, et d'ailleurs, puis transformées à l'Aveyrune, tout près de la brasserie Malpollon. Derrière ces cidres, il y a Ninon, fondatrice de la Cidérée, ce petit jeu de mots sympa. Pendant une vingtaine de minutes, on va donc parler pommes, fermentation, accord à table, cidre artisanal, différence avec le cidre industriel et surtout d'un parcours aussi rare que rafraîchissant. Bonne écoute!
T'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin?
J'aime beaucoup ça.
Donc là, on est avec Ninon à la Cidérée, à Collé, à Malpollon, à la Vérune. Donc on va, comme on l'a dit en introduction, découvrir une cidrerie montpelliéraine, héroltaise. Mais déjà avant, on va s'intéresser à Ninon. Est-ce que tu peux te présenter qui tu es, ton parcours, avant d'arriver à la pomme et au cidre?
Oui, bonjour. Ninon, moi je suis montpelliéraine, j'ai grandi ici, même si mes origines sont aveyronnaises. Avant de lancer le projet de la Cidérée, j'ai d'abord travaillé dans le vin. J'ai fait mes études et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le vin. Suite à la naissance du petit dernier, j'ai décidé de prendre un tournant dans mon projet professionnel avec une vraie intégration de la partie agricole et aussi transformation derrière. J'avais vraiment envie d'avoir un projet complet qui ait du sens, d'avoir des choses concrètes et de pouvoir vraiment contrôler de A à Z de la partie terre à arboricole jusqu'à partie vert. Et cidre qu'on a dans nos verres à déguster. Voilà. Donc c'était un vrai projet de vie puisque j'ai embarqué toute la petite famille derrière ça. Je me suis lancée en 2021 officiellement après être passée par les bancs de l'école en Normandie puisque il y a quand même s'il y a des similitudes, il y a quand même de nombreuses différences entre la production de vin et la production de cidre. Donc j'ai profité d'un contexte post-Covid un peu particulier. Qui a favorisé au niveau personnel une organisation possible. Et moi, je suis repartie me former au lycée Robillard en Normandie pour la partie cidricole. Voilà. Et suite à ça, j'ai repassé aussi un diplôme agricole, pouvoir m'installer en tant que jeune agricultrice par la suite. On a racheté une dizaine d'hectares donc sur en terrasse du Larzac, sur la commune Saint-Jean-de-Fosse, où il y avait déjà des fruits à noyaux qui étaient produits en bio, mais qui avait été abandonné, et aussi des terres nues sur lesquelles je pouvais venir implanter mes pommiers. Voilà. Donc ça a été le projet qui a été lancé ces dernières années, avec à la fois le développement du coup en amont sur la partie culture, avec une vraie implantation d'une pommerie diversifiée, donc à la fois de pommes à cidre aveyronnais, mais aussi normands. J'ai aussi un peu de vignes, il y a des cerises, des abricots, des pêches, et puis j'ai aussi implanté d'autres essences comme des poires, kaki, autres, pour vraiment avoir un verger diversifié. Tout est conduit en bio aujourd'hui. Et puis, en parallèle, c'était vraiment la partie travail en cave avec le développement d'une gamme de cidre, sur des profils plutôt secs, plutôt bruts, extra bruts, mais j'ai aussi un demi-sec, avec vraiment ce projet de travail en cave qui me passionnait, qui m'intéressait, sur lequel je retrouvais aussi mes expériences précédentes du vin et pouvoir proposer quelque chose de différent aussi aux consommateurs.
Alors d'où te vient cette idée de passer déjà du vin au cidre? Enfin, c'était quoi le déclic?
Alors, il y a eu plusieurs réflexions, c'est-à-dire que déjà dans le vin, il y avait quand même pas mal de barrières à la possibilité de s'installer au niveau foncier.
Lesquelles, par exemple?
Il fallait quand même un certain investissement ou avoir de la famille, ou c'était quand même quelque chose qui était assez complexe. Puis je voyais aussi que la consommation de vin n'était pas non plus des plus optimistes. Enfin, il y avait une vraie mutation sur le changement du consommateur vis-à-vis du vin. Et surtout, moi, à titre perso, j'avais vraiment un attrait sur la partie arboriculture. Davantage que la viti, même si on a intégré aussi une petite vigne au projet. J'avais vraiment cette envie de voir autre chose et d'avoir vraiment un suivi sur le cycle de vie d'un arbre fruitier. Voilà, donc c'était vraiment la première chose. Et après aussi, en termes de produits, j'étais déjà une consommatrice assidue de cidre, une amatrice de cidre, parce que c'était un produit que je trouvais très intéressant. J'avais passé 2 ans en pays anglo-saxon, où on trouve des bons cidres, mais aussi beaucoup de cider. Mais il y avait aussi, j'avais quand même pu déguster des cidres d'artisans qui m'intéressaient. Et j'y voyais un gros potentiel en termes d'exploitation en cave, avec vraiment un accompagnement sur ce fruit qui a quand même une grosse richesse aromatique si on y fait attention. Donc voilà, ça me permettait d'allier à la fois l'attrait, on va dire, agronome, et aussi l'attrait au niveau vinif en cave.
Bon, c'est une question peut-être un peu bateau, mais on est tous des amateurs et pas forcément des grands connaisseurs. C'est quoi un cidre?
Alors, un cidre, c'est la transformation d'un 100%, alors à mon sens, puisqu'il y a beaucoup de démissions de cidre aujourd'hui, et malheureusement, on a un souci là-dessus aussi au niveau de réglementation. Le cidre, c'est la production d'une boisson fermentée à base de pommes. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, la réglementation, elle est là. Pour moi, le cidre, c'est avant tout, dans ce qu'on entend, ça doit être un cidre d'artisan. Donc, c'est-à-dire que ça va être un 100% pur jus. Donc, c'est uniquement issu d'un mou de pommes pressées et auquel on va laisser libre cours, puisque c'est des levures naturellement présentes, les levures indigènes qui vont permettre de fermenter le sucre en alcool. Et après, on a une prise de mousse qui est naturelle en bouteille, où c'est pareil, les dernières levures présentes vont fermenter les sucres restants et apporter cette bulle-là. Après, le cidre aujourd'hui, tel qu'il est décrit au niveau législatif, c'est uniquement une boisson fermentée à base de pommes. Voilà.
Bon, c'est comme le vin, hein. L'INAO, enfin plus que l'INAO, l'ONU du vin qui est à Beaune ou à Dijon, je ne sais plus très où exactement, dit que le vin, c'est pareil, une boisson fermentée exclusivement à base de jus de raisin ou de moût de raisin. Du coup, tu parles de cidre artisanal, donc tu viens de le définir, c'est un cidre fait main, bio et avec peu d'intrants, ou voire pas du tout, mais c'est quoi un cidre industriel, si tu devais le résumer?
Donc à l'inverse, pour moi, d'un cidre d'artisan, le cidre industriel, ça va être une boisson qui va être fermentée à base de pommes, bien sûr. Mais après, c'est souvent une boisson qui va être pasteurisée et gazéifiée par la suite, donc qui a tout ça fait sa place dans le marché, mais qui n'est pas du tout différenciée aujourd'hui des cidres artisanales tels qu'on l'entend dans notre savoir-faire. Voilà, donc le cidre industriel, c'est une boisson qui est fermentée à base de pommes et qui est gazéifiée et pasteurisée, donc qui n'est plus vivante.
Et ça, donc toutes les marques qu'on peut trouver au supermarché, en grande distribution, ce sont des cidres industriels du coup?
Alors pas l'ensemble, puisque j'espère que quand même certains artisans ont réussi à intégrer la grande distribution, mais en tout cas le cidre tel qu'on a souvent l'habitude de le connaître sur des prix plutôt bas et plutôt des profils doux sont souvent issus des cidres industriels. Aujourd'hui la production, c'est 80% des deux CAFCOP qui le produisent, et voilà, c'était ce qu'on pouvait trouver souvent en grande distribution, mais pas que, aussi dans les boulangeries ou des choses comme ça par la suite.
Okay. C'est une question là qui vient de me traverser la tête, je vais quand même la poser. D'où ça vient le cidre? Parce qu'on parle beaucoup de la petite guéguerre Normandie-Bretagne, mais j'ai été goûter des cidres issus de variétés basques, et apparemment ça vient plus de ce coin-là que du nord, non?
Alors, j'interviendrai pas dans cette guéguerre de qui a initié le cidre. Après, ce qui était certain, c'était que le cidre a commencé dans ce qu'on appelait les fermes globales, où il y avait souvent de l'élevage, et ça permettait d'avoir des arbres aussi et d'avoir une double activité. Donc, ce n'était pas forcément des métiers qui étaient spécialisés. Et donc, il y en avait pas mal en Normandie ou en Bretagne. Mais après, il y avait aussi des productions de cidre autres, comme donc en Pays Basque, beaucoup également, mais aussi en Savoie ou dans d'autres régions. Moi, en Aveyron aussi, chacun faisait son cidre. Chaque famille faisait son petit cidre. Après, c'était un métier qui n'était pas forcément spécialisé. Aujourd'hui, ça a changé ces dernières années. C'est pour ça qu'on parle davantage de cidre d'artisan, parce que les personnes se sont vraiment penchées sur la question et se sont mises à produire exclusivement du cidre pour la plupart des petits domaines aujourd'hui, même s'il y a encore les fermes avec plusieurs activités qui continuent de fonctionner également.
Bon, bah, niveau variété de pommes à cidre, donc on connaît évidemment pour les pommes à manger, entre guillemets, la Gala, la Pink Lady et la Golden. Mais raconte-nous un peu les noms de tes variétés, parce que j'ai entendu Tête de brebis, ça m'a fait rigoler.
Oui, donc moi j'ai planté essentiellement des vieilles variétés aveyronnaises ou des variétés normandes à cidre qui sont peu connues du grand public, du coup, puisque quand on boit un cidre, on ne voit pas forcément les cépages comme dans le vin, mais ça pourrait. Et donc sur les variétés aveyronnaises, je peux avoir la violette qui est plutôt jolie, la passe rose, pomme de mar, et puis après variété normande, donc il y a la tête de brebis qui m'intéresse énormément, parce qu'en plus quand on cultive en bio, elle est très facile à cultiver, elle s'est très bien implantée. Il y a aussi le petit jeune qui est très intéressant. On peut avoir la douce moëne qui est une des plus connues dans le cidre. Puis après, j'ai planté, il y a encore 7 essences différentes sur les variétés à cidre normands. Et puis j'ai presque une quinzaine sur les variétés aveyronnaises de petites pommes inconnues que j'ai travaillé avec un pépiniériste qui sauvegarde un peu le patrimoine génétique de ce qui était planté il y a très longtemps en Aveyron et qui peut encore l'être un petit peu si on va dans les vergers cachés. Mais voilà, donc c'est des noms un peu rigolos. Tête de brebis, qu'est-ce qui peut y être celle-là, c'est la dabinette, qui est une pomme plutôt anglaise, elle, d'origine plutôt anglaise, pomme à cidre anglaise. Qu'est-ce qu'on a comme nom alors, j'ai un peu de museau de lièvre, mais qu'on connaît parce que ça peut être aussi une pomme à jus. Moi, je l'utilise en pomme à jus.
D'ailleurs, c'est quoi les différences entre toutes ces variétés ? Bon, j'imagine forcément il y a une différence génétique, mais voilà, plus acide que d'autres, plus de corps que d'autres. Raconte-nous quelques différences.
Oui, donc on a une classification dans les pommes à cidre. Ça se classe en 5 catégories. Donc on va aller de la plus aigre, donc sur des pommes vraiment très acides, très, très, très aigres. Après, on a les pommes acidulées, les douces amères et les amères. Et selon les régions sur lesquelles on se trouve, historiquement, on va trouver par exemple davantage d'amères ou douces amères dans le Cotentin, quand on va trouver davantage d'aigres dans le Pays Basque, par exemple. Et moi, j'ai vraiment voulu planter un peu de tout pour vraiment trouver un équilibre. Aujourd'hui, chaque cuvée est différente, donc avec des assemblages qui varient, mais je voulais avoir quand même un profil assez frais et acidulé. Donc j'ai une petite base de douce amère, mais j'ai aussi des variétés plutôt aigres et acidulées pour vraiment apporter de la fraîcheur et de la vivacité à mes cuvées.
Ça a une incidence sur tout ce qui est brut, extra brut, demi-sec, ou ça n'a rien à voir ?
Alors, les catégories vont définir l'équilibre entre l'acidité, le sucre et la partie amère, donc la partie structurelle. C'est des pommes qui vont être plus riches en polyphénol que d'autres. Donc ça va avoir une incidence sur la partie profil aromatique de notre cidre, à savoir que ça c'est volontaire, hein, mais moi sur un de mes bruts, je cherchais quelque chose de plus vif, de plus acidulé, donc j'avais plutôt tendance à aller sur des aigres. Et puis sur l'extra brut, où là je vais avoir un peu plus d'alcool en bouteille, j'ai besoin de compenser un petit peu cet alcool et d'avoir une structure plus présente avec un peu plus de mâche, un peu plus de tanin. Et donc là je vais aller quand même à mettre davantage de doux amer ou d'amer dans l'assemblage. Donc il y a quand même une incidence sur brut, extra brut demi-sec, mais pas que, puisque on pourrait très bien faire un demi-sec avec que de l'amer et avoir un profil peu d'alcool. l'alcool, mais avec quelque chose d'assez amer en bouche, c'est tout à fait possible. Donc ça a une incidence, mais c'est aussi un choix après au niveau des assemblages et des profils finaux.
Donc est-ce que c'est comme dans le champagne ou le crémant, ce côté brut, demi-sec, extra brut, quantité de sucre, c'est ça ?
Oui, ça va être défini par rapport au sucre résiduel en bouteille après la prise de mousse. Donc, moi, je ne produis pas de doux, mais sur le demi-sec, je vais mettre en bouteille plus tôt. Donc, la fermentation ne sera pas complète. Il va rester du sucre en bouteille. On va avoir une quarantaine de grammes de sucre résiduel. Et donc ça va être un profil assez gourmand. Sur les bruts, on va descendre. On va y rester une vingtaine de grammes de sucre résiduel. Ce n'est pas les mêmes niveaux qu'en champagne. Hein. Les niveaux de brut, extra brut sont différents. Et l'extra brut, par contre, on va avoir consommé la totalité de nos sucres. On va en garder un tout petit peu pour qu'il y ait la prise de mousse qui se fasse en bouteille. Mais à la fin, au niveau du verre, ça sera un profil beaucoup plus sec et un extra brut. Voilà.
Et comment on fait un extra brut alors par rapport à un brut ?
Donc, pour moi, les prises de mousse se font en bouteille naturellement. Donc, il va falloir, au moment où je vais mettre en bouteille, sur l'extra brut, on va être autour de 1005 en densité. Il va rester un tout petit peu de sucre. Moi, je fais un comptage de levure par rapport au sucre qui reste pour m'assurer qu'il y en ait suffisamment, mais pas trop non plus. Alors, sur extra brut, j'ai pas trop de risque à ce qu'il y ait une surpression en bouteille. Mais sur des demi-secs, par exemple, il va falloir vraiment calmer les levures présentes et qu'il y en ait très peu pour que le sucre qui est davantage présent puisse fermenter sans exploser. Et donc l'extra brut, on va juste laisser un tout petit peu de sucre en bouteille, au moment de la mise en bouteille pour que ça refermente suffisamment et qu'il y ait une petite présence de bulles dans la bouteille.
Okay. Et d'un point de vue du coup gastronomique, on en parlait tous les deux quand on faisait la visite, il y a vraiment aussi une alternative au vin sur les repas à la maison ou même dans les gastros. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, on n'a pas eu l'habitude de consommer du cidre vraiment en dehors de la galette et de la crêpe traditionnelle. Mais c'est dommage parce qu'on a une palette aromatique hyper intéressante. Alors déjà, entre deux bruts, mais aussi avec la possibilité d'avoir du demi-sec, du brut et de l'extra brut, on augmente encore plus les possibilités. Et en fonction de ce qu'on va associer, ça va être vraiment des accords très intéressants. Par exemple, nous, on adore l'extra brut sur des huîtres, chez nous. Et donc on trouve que ça amène quelque chose d'hyper intéressant. Après, certains restaurants gastronomiques vont l'associer sur du fromage. Aujourd'hui, ils vont remplacer le vin sur la partie fromage et me rentrer un cidre. Mais il peut y avoir aussi sur des plats en sauce. Et notamment, nous, ce qu'on adore, c'est sur les plats, la cuisine asiatique ou la cuisine un peu épicée. Et on a cette possibilité d'association au niveau de l'aromatique qui est hyper intéressante en termes d'acidité, mais aussi le côté un peu sur des plats un peu plus grands avec un peu plus d'amertume et de tanin en bouche pour compléter. Donc, et après, sur le demi-sec, bien sûr, sur des desserts, des choses un peu plus gourmandes, ça se marie très bien. Et puis, on a l'avantage aussi d'être sur des niveaux d'alcool plus faibles que dans le vin. Donc, parfois, qui peuvent être davantage appréciés sur certains consommateurs. Et sur les plats, ça se marie très bien parce qu'on n'a jamais une surexpression de la boisson vis-à-vis de ce qu'on du mets. Ouais.
Bon, on rappelle que comme le vin et tout autre alcool, le cidre est à boire avec modération. Quelques questions encore, après on te libère. C'est quoi pour toi les enjeux de la cidrerie comme entreprise ? Où tu veux amener ton exploitation, ton entreprise dans les prochaines années à venir ?
Alors, il y avait deux enjeux. Comme j'ai commencé, il y avait les deux ambitions initiales. C'était vraiment d'avoir ce modèle culturel en terrasse du Larzac, donc vraiment d'implanter une pommeraie à cidre en terrasse du Larzac, mais pas que, puisqu'il y avait d'autres essences, et avoir un modèle qui fonctionne, une agriculture qui fonctionne diversifiée chez nous. Donc, j'avais vraiment cette envie-là. Et aussi de proposer un produit différent donc sur la partie consommation, avec vraiment des cidres qui soient vraiment l'expression du fruit. et rien d'autre, et pouvoir apporter une alternative à la bière ou au vin, et en tout cas avoir une offre locale d'un produit issu de terroir, d'un super terroir qu'on a chez nous à fruits, un terroir local, et de pouvoir après en faire une petite success story locale. Mais vraiment, pour moi, c'était vraiment de pouvoir à la fois allier la partie culturelle et la partie après consommation, parce que je pense qu'il y a un vrai potentiel sur le cidre aujourd'hui, où on a tendance à baisser notre consommation d'alcool. On est sur des profils qui sont très, très bien appréciés, entre 3,5 et 7 sur les extra bruts, mais le brut est plutôt autour de 5 degrés d'alcool. On a de la bulle, ça plaît. On a une possibilité d'association avec pas mal de plats. Donc, je pense qu'il y a vraiment une possibilité de développement surtout au niveau local, où on n'avait pas cette habitude de consommation sur la partie cidre. Donc là, on le voit ces dernières années, ça a quand même bien pris et les gens y reviennent. Donc maintenant, c'est une question d'habitude de consommation qui n'existe pas sur la partie cidre. Puisqu'on a encore cette image de la galette et de la crêpe, qui est très bien, hein, c'est une saisonnalité qui est hyper intéressante, mais aujourd'hui le cidre a davantage sa place à d'autres instants de consommation. Et voilà, donc moi, mon projet, c'est vraiment de pouvoir donc faire fonctionner ce modèle culturel au niveau de la partie agricole, et aussi pouvoir amener les gens à commander un cidre plus par habitude que par opportunité.
Bon, où on peut trouver du coup vos cidres, enfin tes cidres sur Montpellier par exemple? Voilà, tu parles de success story et c'est cool. Donc on peut les trouver dans les restaurants, dans le magasin. Dis-nous où on peut dire à nos auditeurs, auditrices d'aller les acheter.
Les cidres donc sont principalement distribués chez les cavistes, qui peuvent justement avoir cet accompagnement auprès du consommateur, mais aussi les épiceries bio, ça fonctionne très bien. On travaille avec les Biocop à Montpellier par exemple, mais d'autres aussi épiceries bio plus indépendantes. Et puis après, on a aussi restaurants sur Montpellier, ou les bars aussi. On a lancé là des fûts en pression, justement pour répondre à la demande de certains bars clients dont les consommateurs commencent à demander à avoir du cidre en pression et du cidre local de préférence. Donc voilà, donc on a cette distribution qui est plutôt CHR plus caviste, parce que on n'a pas non plus des gros volumes aujourd'hui à produire, et que c'était vraiment pouvoir valoriser et accompagner le discours qu'il y a derrière ce produit, notamment sur la partie cidre d'artisan vis-à-vis du reste des cidres. Donc voilà, donc on est très bien implanté au niveau local, et on commence à essayer de développer au niveau national et peut-être ailleurs par la suite.
Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Ninon, pour cette visite et cette dégustation. Et puis, à bientôt, j'espère, au vendange peut-être.
Oui.
Au revoir.
Au revoir, merci beaucoup. À bientôt.
Il faut vous enivrer sans trêve. Et de quoi? De vin? De poésie? À votre guise.
J'aime le vin par excellence, parce que le vin est un aliment très nourrissant.
Bienvenue sur Ni Bu Ni Connu, une émission Divergence FM. Je pense que ça va parler de vin.
Et surtout du très très bon vin.
Il ne s'agira évidemment pas ici d'inciter à, mais plutôt d'aborder le vin comme une culture, un univers, un monde.
L'objectif, c'est de parler du monde viticole, qu'on rende hommage au vignoble du Languedoc, mettre en avant les difficultés du monde agricole.
Et on n'a pas vu encore un petit coup de Bourgogne.
On va revenir à ce principe de naturalité du vin.
Il faut un taboulé en bois pour lui donner un petit goût boisé au vin.
C'est un plaisir très intellectuel, parce que t'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin.
J'aime beaucoup ça.